Eh bien, on y est, ça y est, c'est l'heure de casser la croûte, ou presque. Hein. C'est vrai qu'on va commencer d'ailleurs par la cuisiner, avant de la casser, la croûte de sel, la croûte d'argile, la croûte de pain, un beau feuilletage aussi autour d'un bel ingrédient. La cuisine française, et pas qu'elle, hein, adore les croûtes. Alors, on en parle aujourd'hui avec le chef Éric Trochon. Vous savez, c'est le chef du restaurant Solstice à Paris, meilleur ouvrier de France et puis professeur à l'école Ferrandi. Bonjour Éric Trochon.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là. Les auditeurs de la table des bons vivants vous connaissent, hein, vous êtes déjà venu nous parler des sauces, parce que je leur dis, vous avez écrit le plus beau livre de la cuisine française sur les sauces. Ça s'appelle Sauce, tout simplement, et c'est une bible. C'est une somme, voilà. Mais c'est vraiment l'art de la colonne vertébrale de notre cuisine, hein, la sauce. Hein.
Oui, absolument. C'est l'ADN de la cuisine française.
Vous êtes aussi un amateur des cuissons en croûte. Hein. Qu'est-ce que vous aimez tant dans la croûte ?
Alors, deux choses. La première, c'est que la croûte peut se manger ou pas. Ensuite, c'est quelque chose de très design au sens contemporain du terme. C'est-à-dire, c'est à la fois le contenant et le contenu. Donc, c'est très intéressant. Et effectivement, il y a deux grands types de croûtes, celles qui se mangent et celles qui se mangent pas. Mais en tout cas, on préserve l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur des croûtes. Ça donne le moelleux, ça préserve le moelleux, ça préserve les goûts. Et c'est une papillote un peu à l'ancienne, en fait.
Oui,
et
puis ça en jette, comme on dit. Alors, c'est vrai, vous venez de le dire, il existe deux sortes de croûtes, hein, celles qui se mangent et celles qui ne se mangent pas. On va commencer, tiens, par celles qui se mangent. Et vous nous avez apporté un bel exemple de croûte qui se mange. Qu'est-ce que c'est ? Tiens, on peut le voir sur Europe 1.fr.
Alors ça, c'est un pâté de gibier, ça. C'est un pâté de gibier. Alors, j'ai la chance d'avoir des moules un petit peu à l'ancienne, comme ça.
Beau, ouais.
Biche, canard et foie gras.
Biche, canard et foie gras. Quel genre de croûte autour ? Alors, c'est comme un pâté croûte un peu. Hein.
C'est un pâté croûte. Hein. C'est un pâté croûte. Une croûte plutôt contemporaine avec farine, fécule, œuf et beurre. Je dis contemporaine parce que traditionnellement, on y mettait plutôt que de la farine et un gras en général. Ça peut être du gras de veau ou du gras de cochon.
Du saindoux.
Hein. Oui, du saindoux, absolument. Alors aujourd'hui, on fait des croûtes beaucoup plus légères.
Oui.
On est moins sensible à l'idée du transport, peut-être. En tout cas, il faut que la croûte soit équilibrée avec la farce à l'intérieur.
On m'a dit que le saindoux permettait de garder une croûte croustillante plus longtemps.
Pas forcément vrai, mais en revanche, ça permet d'étanchéifier la croûte elle-même. Hein.
Vous dites pâté croûte ou pâté en croûte alors ?
Le piège.
Le débat.
Grand débat. Non, moi je dis pâté en croûte. Hein. Pâté en croûte.
Oui, on s'est renseigné en préparant cette émission. En fait, on dit pâté croûte du côté de Lyon et de Reims, et le reste de la France dit pâté en croûte, effectivement. Mais c'est vrai que c'est fou comment cette belle charcuterie noble est revenue sur le devant de nos tables, au restaurant et un peu partout, Charlotte Langrand.
Moi, je dirais que, évidemment, ça existe depuis extrêmement longtemps, mais il y a quelques années, il y a eu un retour en force du pâté en croûte grâce à son championnat du monde qui a fait un carton absolu. Du coup, il y en a absolument partout, même au restaurant. Et parce que c'est un boulot à la fois, c'est peut-être pas le plus technique, mais en tout cas c'est très rigoureux, ça demande beaucoup de savoir-faire et surtout beaucoup un temps long, hein. On peut mettre 3 à 4 jours à faire un pâté en croûte parce que ça demande à la fois un savoir-faire pâtissier et charcutier et cuisinier. En fait, ça amalgame absolument tous les savoir-faire de la cuisine,
regarde,
voilà,
hein.
C'est ça.
Oui, ça fait partie des morceaux un peu copieux de la cuisine française. Il faut s'y prendre à l'avance, mariner ses viandes, faire sa pâte. Et puis, comme tout ce qui est pâté, il faut aussi un temps, notamment dans le cas des pâtés croûtes en croûte, froid. Il faut un petit temps de maturation derrière pour pas le manger
comme
trop froid.
Comme un foie gras, les arômes s'échangent.
Phénomène d'osmose.
Donc voilà, exactement. Là, vous êtes venu avec cette merveille effectivement giboyeuse. Donc, hein, redites ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors là, c'est biche, canard et foie gras.
Biche, canard et foie gras. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un pâté en croûte comme celui-ci, c'est un contenant qui permet de transporter facilement. Vous êtes venu avec, c'était pas trop compliqué en plus.
Non, c'est un beau cadeau. Je pense qu'à l'origine, en fait, c'était ça. Hein. C'était vraiment le contenant, ça servait. Et on dégustait pas forcément la croûte, alors qu'aujourd'hui, la croûte fait partie intégrante du pâté.
Oui, parce que, en fait, la croûte, elle est très vieille. Hein. Dès l'Antiquité, on maîtrisait déjà la croûte et elle servait, jusqu'au Moyen-Âge notamment, à préserver les aliments. C'était quelque chose qui permettait d'éviter l'oxydation. Elle n'était pas bonne parce qu'elle était sèche. Justement, on n'y mettait pas de matière grasse, donc elle n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et c'est beaucoup plus tard, avec la Renaissance et avec le développement des techniques de pâtisserie qu'on connaît aujourd'hui, et notamment la pâte feuilletée, que la croûte va devenir une partie intégrante de la cuisine et qu'on va la consommer.
La gelée est importante, non, aussi ?
Alors, la gelée, effectivement, ça apporte de l'humidité. Souvent, on dit
que ce soit trop sec. Hein.
Qu'est-ce que c'est bon ?
Voilà, exactement. Bah, c'est le principe des croûtes. Hein, qu'elles soient, qu'on les mange ou qu'on ne les mange pas, l'intérêt d'une croûte, c'est de conserver l'humidité à l'intérieur du produit et éviter, effectivement, la déshydratation.
Vous avez raison, il y a une sorte de moelleux, effectivement, il y a une belle humidité et il y a un équilibre entre la douceur et le caractère, je trouve, dans ce pâté croûte qui est incroyable, là.
Bah, là, c'est aussi le principe de... Alors là, pour le coup, c'est le cuisinier qui parle. Je cherche un équilibre entre les saveurs et je vais essayer de ne pas faire quelque chose de trop giboyeux, justement, mais plutôt travailler sur l'équilibre.
Et puis, il faut un rapport viande-croûte aussi qui soit très équilibré. Là, on a cette croûte qui est croustillante, mais qui est fine, généreuse en viande. Tout l'inverse des pâtés en croûte qu'on achète en grande surface où il n'y a que de la croûte et rien à manger dedans.
Et beaucoup de nitrites.
Je suis contente moi que ça se soit réapproprié, enfin que les cuisiniers et les bons traiteurs se la réapproprient parce que ça avait été un petit peu kidnappé par les industriels et c'était le pâté en croûte, c'était devenu une pâte pâteuse, une farce un peu sans goût ou un peu trop rose à mon goût avec un peu trop de nitrites.
C'est une belle revanche de l'artisanat.
C'est une belle revanche, je trouve.
Vous avez raison. Oui. Il y a un classique en croûte qui revient aussi beaucoup, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est le bœuf Wellington, qui est une recette qu'on peut faire facilement à la maison. Nos éditeurs, tiens, si vous voulez faire ça ce week-end, un filet de bœuf qu'on achète chez le boucher, hein, Eric Trochon.
Oui, ça reste quand même un plat, un tour de force, un plat un peu technique. Il y a quand même quelques règles à respecter. D'abord, il faut un filet de bœuf un peu maturé, pas trop humide, parce qu'il va avoir tendance à relâcher l'humidité à l'intérieur de la croûte en cuisson. Une jolie brunoise, enfin une jolie duxelle
de champignons,
quelques truffes.
Une crêpe.
Voilà. Alors la crêpe, c'est le petit truc, ça. C'est le petit truc que les cuisiniers ont trouvé pour capter l'humidité, en fait, et éviter la détrempe de la pâte. Mais ça marche aussi sur le poisson, par exemple. Hein. Quand on met des choses en croûte, cette petite crêpe va pomper l'humidité rejetée par le produit et éviter de détremper la croûte, parce que c'est la problématique en fait.
C'est bientôt la Chandeleur, il faut faire des crêpes et des bœufs Wellington, et c'est une pâte feuilletée qu'on met autour hein, en robe du bœuf Wellington.
Absolument, c'est une pâte feuilletée, bien que effectivement, historiquement il semblerait que ce ne soit pas une pâte feuilletée, mais bon, c'est comme ces recettes très très emblématiques, on peut discuter pendant des heures de savoir...
Il faut bien colorer la viande avant de l'encrouter.
Absolument, bien la colorer, bien la rissoler, l'avoir au départ effectivement bien maturé, bien sèche, hein, qu'il n'y ait pas trop d'humidité, bien la colorer pour justement fixer cette humidité à l'intérieur, et ensuite procéder par couches, méticuleusement, et fermer également avec grand soin sa pâte feuilletée autour.
Autre croûte qui se mange et qu'on a vu dans un film, il y a un bel hommage, hein, c'est la fameuse soupe VGE de Paul Bocuse qui a été faite lorsqu'il a reçu la Légion d'honneur en 1975 à l'Elysée. On casse une belle croûte, c'est une croûte feuilletée hein, aussi, je pense.
C'est un feuilletage.
Par-dessus ce bol en porcelaine. Là, hein.
Voilà, c'est le principe, ce qu'on appelle les montgolfières, en fait, c'est-à-dire sous le dégagement de la vapeur de la soupe, le feuilletage va gonfler, va former comme une montgolfière.
Oui, voilà. De Funès à la fin de L'Élu la cuisse, il a une soupe qui ressemble à celle-ci, quand il retrouve sa montre à l'intérieur, s'est inspiré de la soupe VGE.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à table avec le chef Eric Trochon du restaurant Solstice à Paris dans le 5e. On parle cuisson en croûte ce matin. Il est aussi formateur à l'école Ferrandi, la fameuse école Ferrandi dans le 6e arrondissement de Paris. Alors Eric, après les croûtes qui se mangent, parlons des croûtes qui permettent une cuisson à l'étouffée, une cuisson douce. C'est une technique vieille comme le monde, ou du moins comme le feu, on pourrait dire, hein, presque. Hein.
Oui, on peut penser que n'ayant pas de peau hein, en argile, les premières cuissons étaient faites dans une boule d'argile, une boule de terre recouverte de braise, et ensuite on laissait tout ça tranquillement le temps que ça cuise. Ça préserve l'humidité, ça évite le dessèchement et on peut faire autre chose pendant ce temps-là.
Et c'est ça. Ouais.
Aller chasser le mammouth ou je sais pas, cueillir des baies.
C'est ça, voilà. Ou des fleurs pour sa femme.
Olivier Pouls fait ça très souvent.
Oui.
Croûte de
chasser
riz,
le mammouth, ouais.
Croûte de ça, je croyais chercher des fleurs. Croûte de riz, croûte de sel, d'argile et même de cire. Hein, les enrobages ne manquent pas. C'est vrai que vous le dites, c'est un ustensile de cuisson primitif. Parlons de la croûte d'argile. Tiens, qu'est-ce qu'elle apporte ?
Eh bien, elle enferme le produit de façon hermétique, donc il cuit dans sa propre humidité. Alors, petit débat, effectivement, y a-t-il une concentration ? Non, à partir du moment... Dans le principe, s'il n'y a pas d'évaporation, il n'y a pas de concentration. Il y a juste, simplement, une meilleure symbiose des aliments, enfin, des aliments entre eux à l'intérieur du produit et une cuisson à l'étouffée.
Et un moelleux, peut-être.
Il y a un
aussi,
moelleux, mais c'est exactement le principe d'une papillote. Hein. C'est, voilà.
Ouais, j'ai une question un peu provoque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs qui se lancent là-dedans. Alors, ils vous expliquent même d'où vient l'argile et tralali et tralala. Le storytelling est super. Mais en réalité, l'apport gustatif entre ça et une cocotte luthée ou une papillote bien fermée,
Alors ça dépend. Ça dépend. Alors là, je m'inscris un peu en faux. Effectivement, sans savoir qui est le papa de l'argile ou la maman de l'argile, c'est pas la question, mais surtout que ce sont des argiles souvent traitées industrielles et que voilà, il y a pas de terroir derrière. Hein. Mais en revanche, ça donne un léger goût de terre et vous avez un aspect parfois un peu crayeux à ce niveau-là. C'est intéressant si vous n'enfermez pas au préalable le produit. Dans quelque chose d'hermétique avant de le mettre dans l'argile.
On le met dans de la gaze, par exemple.
Oui, dans la gaze, si on met du papier sulfurisé ou quelque chose
voilà
comme ça.
Voilà, ouais. Si vous le mettez en papier sulfurisé, effectivement, le transfert de goût sera minimum. Mais si vous le mettez dans des feuilles, là, ça devient vraiment intéressant.
Des feuilles de quoi ?
De vigne, par exemple, de noyer.
Okay. Hein, de figuier.
De figuier, oui, non, c'est feuilles de vigne, feuilles de figuier, feuilles de noyer. Et là, vous avez effectivement un transfert de saveur qui est vraiment intéressant et vous sentez la terre, clairement.
Vous avez beaucoup travaillé, Éric Trochon, sur l'argile à Ferrandi avec vos élèves. Et je crois que vous avez fait des œufs en argile qui contenaient des cailles, c'est
absolument,
ça
c'était une prestation. On a travaillé sur le design culinaire avec Marc Bretillot et l'école de Reims. Et effectivement, on avait recréé l'œuf primitif qui est celui qui contenait une caille. C'était pour la manger, donc c'était pas grande chose.
Mais il y avait un petit goût terreux comme ça qui avait
absolument,
été communiqué à la caille.
Parce qu'on l'avait pas protégé, effectivement. On avait souhaité avoir quelque chose le plus traditionnel possible, en tout cas avec un transfert de goût.
Il y a un livre consacré aux cuissons en croûte,
oui,
Charlotte.
Oui, hein. Oui, si vous voulez vous y mettre, justement, la cuisson à l'argile de légumes racines dans l'argile, c'est dans ce livre aussi. C'est un très beau livre de Thomas Feller chez Marabout. Ça s'appelle tout simplement En croûte. Et en fait, c'est assez complet. Vous aurez les trois façons de faire des croûtes. Les croûtes tradies avec du pâté en croûte, évidemment, mais aussi des recettes sucrées. Vous avez des croûtes contemporaines et des croûtes du monde, parce qu'on ne fait pas que ça. En France, des sausage rolls, de l'ananas rôti en croûte de sel, par exemple. Ça vous inspire ?
Oui, la croûte de sel, c'est quelque chose qu'on maîtrise quand même relativement bien maintenant. Deux types de croûte de sel, le sel à mélanger avec du blanc d'œuf, et le deuxième, quand on veut un peu de tenue, toujours dans cet esprit d'avoir un ustensile de cuisson, c'est sel, farine et blanc d'œuf, avec des aromates pour parfumer l'ensemble. Bah, comme quoi, il y a bien un échange entre la croûte et l'intérieur. Hein.
Moi, j'aime bien cuire des boules, des légumes boules, des betteraves ou des céleris en croûte de sel. Je trouve qu'il y a ce moelleux quand même qui surgit dès qu'on casse la croûte.
Absolument. Oui, c'est pour ça. Hein. C'est fait pour cuire dans son propre jus, sa propre humidité.
Et les poissons en croûte aussi. Alors, c'est vrai que moi, je fais des poissons de temps en temps en croûte. Et quand vous la portez sur la table, il y a un côté spectaculaire qui est agréable. Mais souvent, la première question, c'est les gens, ils se disent, mais ça va être trop salé. Ils ont peur de ça.
Alors, c'est pas trop salé si vous cassez la croûte, pour le coup, tout de suite à la sortie du four. En revanche, je vous déconseille, pour avoir fait l'expérience, de laisser, par exemple, si vous faites des légumes en croûte de sel, vous les laissez une heure dehors à attendre. Voilà. Et là, effectivement, le sel va pénétrer à l'intérieur du légume. Donc, c'est pas génial. En revanche, si vous cassez la croûte tout de suite en fin de cuisson et vous extrayez vos légumes, votre poisson, etc., il n'y a aucun risque.
Mais il faut beaucoup de sel, hein, parce que ouais, quand vous avez un joli bar qui fait 1,5 kg, 1,7 kg, il faut quelques kilos de sel pour le recouvrir.
Et un sel un peu humide, hein, comme vous le disiez, même si on met du blanc d'œuf, mais le gros sel gris de Guérande convient bien, par exemple.
Oui, Guérande au Noirmoutier, il n'y a pas de raison.
Et on peut mettre des aromates aussi.
C'est un peu l'idée, effectivement, de parfumer ce sel avec des aromates, thym romarin, bien sûr, laurier, genièvre, pourquoi pas, cumin, enfin ce qu'on veut.
Presque comme des marinades, quoi.
Absolument, absolument.
Vous nous avez dit aussi, en préparant cette émission, que vous étiez en train de travailler sur des cuissons en croûte de cire.
Oui, là, en ce moment, on est en train de travailler sur de la cire. Bon, j'ai la chance d'aller beaucoup en Corse et de travailler avec des amis qui ont des abeilles là-bas et qui ont pu me fournir de la cire. Parce que c'est assez compliqué d'avoir de la cire en grosse quantité, dans la mesure où, en général, elle est recyclée dans les ruches directement pour faire les alvéoles. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de faire des tests en cuisant, toujours un petit peu inspiré par mon ami Marc Bretillot, où on avait cuit de la poitrine de porc dans un bain de cire pendant 4 heures. C'était assez extraordinaire. Et quand on la sort, on peut la laisser refroidir, il va se former autour d'une croûte. Et ensuite, on va ouvrir cette cire, un peu dans l'esprit d'un fameux fromage d'autrefois, où on avait juste une croûte de cire autour.
Ah, c'est ça. Et ça permet de garder la chaleur, du coup, aussi, là, peut-être.
Alors, ça permet surtout un pochage très, très constant, très doux. Ça permet de garder la chaleur et ça parfume un peu comme une rogue d'œuf dans le cas de cette préparation grecque.
La poutargue.
La poutargue.
Ouais, c'est ouais. Ça. Ah oui. Ah,
ça parfume
note,
vraiment beaucoup.
Ça parfume vraiment ouais. Beaucoup. Ouais. Oui, et puis le cochon, il aime bien les parfums hein, qui
peuvent
jouer.
Le gras va fixer ce goût de cire. Alors là, je le teste sur des poissons. C'est un peu plus délicat à cuire. La cuisson est vraiment très sensible, mais le résultat est vraiment enthousiasmant.
Mais vous reviendrez nous en parler, Éric Trochon.
Et vous vous en faire déguster surtout.
Avec plaisir. C'est un bonheur de vous avoir à cette table. Éric Trochon qui a son rond de serviette à la table des bons vivants. Et on peut goûter sa cuisine dans le restaurant Solstice, 45 rue Claude Bernard à Paris, dans le 5e arrondissement. Et si vous voulez maîtriser les sauces, ne cherchez pas, il n'y a qu'un seul livre. C'est le sien qui s'appelle
Merci.
Sauce, qui est paru aux éditions...
Du Chêne.
Les belles éditions du Chêne, absolument. Merci beaucoup Éric Trochon.
Merci à vous.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.